10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Michel Barnier.
Bonjour Sonia Mabrouk.
C'est votre grand rendez-vous ce dimanche et pour vous interroger, à mes côtés, Nicolas Barré des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sonia.
Et le penseur et sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour à vous Mathieu.
Bonjour.
Et si Michel Barnier créait la surprise? C'est une petite musique de plus en plus insistante. Certains vous voient déjà en favori en vue du Congrès des Républicains. Vous assumez, Michel Barnier, des propositions de rupture sur l'Europe et l'immigration. Alors, quelle est votre cohérence sur ce sujet, eu égard à votre parcours? Quelle droite incarnez-vous qui ne soit pas soluble dans le macronisme? Et puis, que répondre à Éric Zemmour qui, lui, se voit en fer de lance de la vraie droite? Nous vous poserons toutes ces questions, mais tout d'abord, Michel Barnier, nous sommes le 17 octobre et c'est le 60e anniversaire du 17 octobre 61, date de la sanglante répression de manifestants algériens. Emmanuel Macron a fait un pas de plus dans la reconnaissance de cette répression, parlant de vérité incontestable et de fait inexcusable pour la République sous l'autorité de Maurice Papon. Vous, président, auriez-vous fait de même?
On a un devoir de vérité. Après une tragédie de cette nature et qui n'est pas excusable, ça fait 60 ans. Je ne suis pas historien, mais je pense qu'on a un devoir de vérité. Maintenant, il y a eu des victimes des deux côtés, beaucoup de victimes, et donc il faut penser à toutes ces victimes d'une guerre terrible. Au moment de cette tragédie à Paris, nous sommes en guerre. Il y a des attentats de tous les côtés, chez nous, en France, en Algérie, qui touchent tout le monde. Je pense qu'on a un long chemin qui n'est pas terminé de réconciliation, de mémoire avec l'Algérie, peut-être d'autres pays. Sur ce chemin-là, il faut penser à tout le monde, je le répète, aux victimes des deux côtés. Je pense aussi aux harkis, à l'égard desquels nous avons un devoir de reconnaissance, peut-être de réparation. Puis je pense aussi que pour le prochain président de la République, il y aura un défi qui concerne les nouvelles générations. L'immense majorité de la population d'Algérie, beaucoup de jeunes issus deuxième, troisième génération de l'immigration chez nous, sont des jeunes. Donc il faut penser aussi à l'avenir. Pour penser à l'avenir, il faut sans doute éviter des propos qui rendent plus difficile le chemin commun.
Emmanuel Macron a déclaré, Michel Barnier, il y a quelques jours, il a dénoncé la rente mémorielle entretenue par le régime politico-militaire en Algérie. Est-ce qu'il a raison de parler ainsi?
Je pense qu'il a tort, comme il a eu tort de parler de crimes contre l'humanité à propos de la colonisation. Il y a quelques années, il était à l'époque candidat. Ce sont des déclarations qui ne facilitent pas les choses. Je pense qu'il faut se méfier, en tout cas moi je me méfierais d'un excès de repentance et d'un excès d'arrogance.
C'est le cas aujourd'hui, vous pensez, cet excès de repentance de la part du président de la République? Vous parliez des harkis, effectivement, il a adressé...
Pour les harkis, il ne s'agit pas de repentance, il s'agit de reconnaissance.
Sur les harkis, il a eu des mots très forts. Est-ce que vous partagez ce qu'il a dit sur le sujet?
En tout cas moi, si vous m'interrogez comme quelqu'un qui est candidat... à la présidence de la République et qui soutient et qui souhaite obtenir le soutien de sa famille, c'est ça dont il est question aujourd'hui, des Républicains, je ne donnerai pas dans la repentance. Je pense que le président de la République doit assumer l'histoire de son pays. Et François Mitterrand d'ailleurs avait une phrase qui parlait des histoires de France. Donc j'assumerai les histoires de France et l'histoire de notre
pays. Vous avez répété à deux reprises depuis le début de cette émission, Michel Barnier, qu'il faut une reconnaissance des deux côtés. Ça veut dire qu'en Algérie, il n'y a pas cette reconnaissance. Par exemple, les archives algériennes, est-ce qu'il est temps qu'elles soient aussi ouvertes
et
qu'on regarde?
J'ai dit que la réconciliation exige qu'on soit deux. C'est tout ce que je veux dire. Et donc c'est cela que je veux
dire. Donc ce n'est pas le cas pour le moment.
Il faut être deux pour la réconciliation.
Donc ce n'est pas le cas.
Est-ce que la France fait une repentance exagérée? Est-ce que vous sentez chez les Français une exaspération par rapport à la génuflexion perpétuelle, par rapport au passé français?
La génuflexion, c'est autre chose. Je vais me permettre. Donc faites attention aux mots qu'on utilise.
Je l'ai utilisé consciemment.
Oui. Pour moi, c'est autre chose. Je pense qu'on doit cesser de s'excuser en permanence. Voilà ce que je pense. De notre histoire, il y a des ombres et des lumières dans cette histoire, plus de lumière que d'ombre. C'est une grande histoire que celle de la France, et moi j'en suis fier. Et je pense que le président de la République, le prochain président de la République, doit éviter de s'excuser en permanence.
Restons sur ces relations, Michel Barnier, avec l'Algérie et d'autres pays, mais en particulier avec l'Algérie. Vous souhaitez mettre en place un moratoire sur l'immigration. Faudra-t-il pour cela, par exemple, revoir ou carrément remettre en cause les accords qui nous lient, qui lient la France et l'Algérie? Je pense aux accords d'Évian qui, nous le savons, accordent un régime de faveur aux Algériens, que ce soit sur la citoyenneté ou la résidence en France. Est-ce que vous dites clairement, mais ces accords, il faudra y revenir si je suis président?
Non, je ne dis pas qu'il faut tirer un trait de plume sur les accords d'Évian. Je dis qu'il y a des conséquences, 60 ans après, qu'il faut regarder de près, comme d'ailleurs, tardivement, on vient de le faire, il y a quelques semaines, en mettant en cause le nombre de visas qu'on accorde à l'Algérie, au Maroc ou à d'autres pays. Il est temps qu'on ait un dialogue avec ces pays, pas seulement l'Algérie et d'autres pays d'Afrique ou du Proche-Orient, sur la question de la réadmission, par exemple. Ces pays doivent réadmettre chez eux des citoyens qui sont les leurs et qui ne sont plus les bienvenus chez nous. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il y a une remise à plat qui doit se faire. Évidemment, dans le respect, parce qu'il ne s'agit pas de provoquer.
Oui, c'est facile à dire, Monsieur Barnier, dans le respect. Mais dès qu'on place ce sujet, il y a des crispations de l'autre côté. L'Algérie a rappelé son ambassadeur.
Oui, donc il y a des crispations. Il faut assumer certaines crispations. Il faut assumer la franchise et de poser les problèmes. Si je fais ces propositions sur l'immigration, c'est parce que les problèmes sont sérieux, qu'ils provoquent des tensions, des ruptures, peut-être des troubles dans notre pays, et que le rôle d'un candidat à la présidence de la République, et a fortiori le rôle du prochain président, sera de traiter cette question qui n'a pas été correctement traitée depuis une dizaine d'années.
Et justement, vous plaidez notamment, vous avez surpris en plaidant pour une forme de moratoire sur l'immigration pour un certain temps. Ce qui veut dire que vous posez aussi la question de l'assimilation. Donc l'assimilation ratée de peut-être une ou deux générations de Français sur le plan qui ne se sont pas acculturés à la France. Est-ce que vous considérez que la France a un problème d'assimilation aujourd'hui avec des générations déjà installées? Et si oui, comment assimiler ces populations?
Oui, je n'ai pas peur du mot d'assimilation. D'ailleurs, il figure dans notre code civil, hein, comme vous le savez. Je dis ça d'ailleurs en pensant à la mémoire de Samuel Paty. On peut trouver d'autres exemples. Il y a un député britannique qui était assassiné aussi dans des conditions tragiques, de sauvagerie, il y a quelques jours. Un peu partout, on voit ces problèmes liés à l'intégration républicaine ou à l'assimilation. Et donc, il faut rappeler quelles sont les valeurs que toute personne qui vit sur notre territoire ou les principes doit respecter.
Ça fait des années qu'on le rappelle, aujourd'hui. Monsieur Barnier.
Oui,
et donc. Et pour quel résultat?
Donc les valeurs de la laïcité, les valeurs de l'égalité des hommes et des femmes, des préférences sexuelles, des différences, ces valeurs-là de liberté sont celles de la République française. Oui, et elles doivent être respectées.
Il ne suffit pas de les énoncer.
Donc ça veut dire que ceux qui ne les respectent pas, et parfois de manière violente, doivent être sanctionnés, que la justice doit faire son travail, que les sanctions doivent être exécutées, que les expulsions doivent l'être. Ça veut dire qu'il faut donner à la justice, à la police, à la gendarmerie et en même temps sanctionner tous les manquements à l'autorité publique et à ceux qui exercent des missions d'autorité publique. Il n'y a pas que les gendarmes ou les policiers, il y a aussi les professeurs, il y a aussi des élus locaux, des sapeurs-pompiers qui sont agressés. Je pense que dans les années qui viennent, il va falloir très clairement dire que tous ceux qui ne respectent pas l'autorité de l'État doivent être sanctionnés. Et mais quand ils sont étrangers, expulsés.
Mais je me permets de revenir sur ça. On a parlé au fil des ans des territoires perdus de la République.
Oui.
Ce sont aussi quelquefois des territoires perdus de la culture française. Alors, tous s'entendent aujourd'hui, le mot assimilation revient à la mode. Tous plaident pour un retour à l'assimilation. La question manquante, c'est le comment. C'est-à-dire comment assimiler à la culture et la nation française ces territoires perdus de la République.
Par exemple, en exigeant la connaissance de notre langue quand il s'agit de regroupement familial. C'est une première. Et d'autres mesures doivent être prises. C'est d'ailleurs l'une des raisons de ce moratoire que j'ai proposé, accompagné d'un référendum qui permettra d'abord au Parlement de se prononcer tous les ans, comme c'est normal dans notre pays, ça devrait être normal sur le nombre de personnes que nous accueillons chez nous à titre économique, et qui permettra aussi de construire ce bouclier constitutionnel pour nous permettre, pendant une période de 3 à 5 ans, de prendre
des mesures. On va vous interroger sur ce sujet, Michel Barnier, mais on essaye de comprendre, parce qu'un moratoire sur l'immigration ne suffit pas à résoudre le problème, en tous les cas, malheureusement, l'échec de l'assimilation ou de l'intégration.
Mais il n'y a pas de coup de baguette magique. Il y a une réponse pénale qui n'est pas suffisante, il y a la Constitution et les moyens dont nous devons disposer à travers ce moratoire. C'est l'objet d'une proposition à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, permettez-moi de vous le dire. Hein. Je ne fais pas de coup. Il n'y a pas de mode. Excusez-moi de reprendre un mot que vous avez utilisé. Je ne cède pas au mode.
Reconnaissez que pendant certains temps, la droite n'a pas beaucoup parlé des problèmes
de civilisation. Oui, mais moi, je suis candidat pour la première fois. Et ça sera d'ailleurs la seule fois où je serai candidat à la présidence de la République, parce que j'espère être élu pour un mandat, et ensuite de passer des relais. Mais c'est la première fois que je suis candidat à la présidence de la République. Donc ne me reprochez pas de traiter ces questions comme je le fais sérieusement.
Mais vous avez été ministre, vous avez été commissaire européen, vous avez été aux manettes, M. Barnier, pendant des années.
Et je peux dire en effet tout ce qui ne fonctionne pas en Europe et en France, et c'est précisément ce que je fais. Que j'essayais de faire pendant le temps où j'étais à Bruxelles, notamment sur les questions de régulation financière et de détricotage de la régulation auquel on a procédé pendant 30 ans, gouvernement de gauche et de droite, et ce que je ferai si je suis président de la République, comme je l'espère.
Eh bien, on va en parler, on va marquer une courte pause, on va revenir sur vos propositions, notamment sur l'Europe. Beaucoup, peut-être de nos téléspectateurs, de vos militants et sympathisants, les Républicains et d'autres, se posent la question, comment M. Barnier peut-il faire des propositions aussi radicales sur l'Europe, eu égard à son parcours au sein, évidemment, de l'Union européenne et de la Commission européenne. À tout de suite pour en parler.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et notre invité en ce dimanche, Michel Barnier. La question de cette deuxième partie vous est posée par Mathieu Bock-Côté.
Alors Michel Barnier, j'ai lu votre livre La Grande Illusion.
Je vous félicite. Je vous remercie.
Mais c'était fort intéressant. Et vous cherchez à comprendre de manière très honnête les raisons du désamour des Européens, à tout le moins de certains Européens, pour le projet européen, pour la construction européenne, au fil de vos réflexions. Mais une hypothèse, vous semblez laisser de côté une hypothèse, c'est-à-dire qu'il est possible que plusieurs Européens préfèrent fondamentalement l'exercice de la souveraineté au niveau national, soit d'abord attaché à la forme de l'État-nation, plutôt qu'à la construction européenne. Donc en dernière instance, une forme de préférence idéologique ou intellectuelle de fond pour l'État-nation plutôt que pour l'Europe. Est-ce que vous prenez au sérieux l'idée qu'aujourd'hui plusieurs peuples européens préféraient en dernière instance les Polonais, peut-être les Français, les Britanniques manifestement, d'abord leur souveraineté nationale plutôt que le projet européen?
Alors d'abord, j'espère qu'on reviendra sur les raisons du Brexit, parce que c'est pas un petit événement.
On y viendra,
Brexit, c'est un divorce et un échec de l'Union européenne. Et donc j'ai cherché dans ce livre au début. Le premier chapitre s'appelle un avertissement. Mmh. Donc j'ai cherché, donc ce que je fais aujourd'hui comme candidat à la présidence de la République, c'est de dire il y a des raisons, il y a un sentiment populaire, il ne faut pas le confondre avec le populisme, et il faut écouter, comprendre et répondre à ce sentiment populaire. Et objectivement, toutes les réponses ne sont pas à Bruxelles, il y en a pas mal à Bruxelles, je peux les rappeler, et puis il y en a d'autres à Paris, il y en a d'autres dans les régions. Mais la souveraineté nationale, c'est l'affaire du président de la République. Et donc je m'inscris dans cette idée que le chef de l'État doit être porteur, responsable de la souveraineté nationale, de la défense de l'intérêt national, de l'intérêt public. La question c'est, dans certains cas, et pour faire face à certains défis, est-ce qu'il faut ou pas rendre solidaires nos souverainetés nationales? Voilà pourquoi je suis européen depuis toujours, en plus d'être patriote et gaulliste, je dis bien européen, en plus, pas à la place d'être patriote. Je pense que dans certains domaines, et c'est ce que j'explique, j'étais il y a quelques jours à côté de Toulon, j'étais du côté de Marseille aussi, et j'essaie d'expliquer exactement comme je le fais devant vous, parce que je n'ai pas de langage.
L'explication c'est bien, mais l'action c'est mieux, M. Barnier. Oui. Qu'est-ce que vous répondez précisément à la question, je n'avais pas compris, pardonnez-moi, de Mathieu Bock-Côté, est-ce que vous reconnaissez que certains peuples aujourd'hui veulent justement cette... souveraineté nationale.
Je suis désolé que vous n'ayez pas compris, mais j'ai expliqué que je ne suis pas du tout en opposition avec cette question. Le président de la République, chaque pays a sa souveraineté nationale. Et il ne s'agit pas d'y renoncer. Il ne s'agit pas de partager notre souveraineté nationale. Il s'agit de les associer.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, les associer? Français, on a une souveraineté française, nationale.
Oui, mais nous avons choisi, excusez-moi de vous rappeler que nous avons choisi en 58, le général de Gaulle arrive au pouvoir, et en 57, un an plus tôt, de faire avec le traité de Rome et de nous engager dans cette solidarité. Ce que j'appellerais la mutualisation. Si vous voulez un mot qui, pour moi, résume ou exprime ce que je pense du projet européen, c'est une mutualisation de nations. Je pense, je vais être encore plus clair, qu'on a besoin des nations, en particulier pour combattre le nationalisme. On a besoin des nations, on doit les respecter. Le général de Gaulle, que je cite souvent parce qu'il a été à l'origine de mon engagement politique, et c'est ma principale fierté, il disait, il ne faut pas que l'Europe broie les peuples dans une purée de marrons. Voilà. Eh bien, je suis sur cette ligne.
Bon, bah, on a besoin des nations. Les Polonais, ils ont l'impression d'être broyés dans le
pur élan. Soyons précis, il faut dire les choses précisément, par respect pour ceux qui nous écoutent. Les Polonais ont accepté il y a 17 ans d'entrer dans l'Union européenne. Ils l'ont voulu, personne ne les a obligés. C'est un choix volontaire. D'ailleurs, cette mutualisation de nations, elle se fait sur une base volontaire. Eh bien, ils ont accepté, ils ont demandé, ils ont choisi, ils ont voté pour entrer dans l'Union européenne. Ils ont accepté les traités. Et c'est ça qui est en cause. 17 ans après, ils nous disent on ne reconnaît pas ou on peut ne plus reconnaître ces traités. C'est un problème.
Non, mais ils veulent un primat.
Michel Barnier, si vous étiez à l'Élysée aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez aux Polonais? C'est quoi la réponse? C'est des sanctions?
Non, je leur dirais de bien réfléchir et peut-être au niveau du Conseil européen, dont je serai membre, que je connais bien puisque j'y ai participé comme négociateur du Brexit pendant 4 ans, la table des chefs d'État et du gouvernement. Je pense qu'à un moment donné, après une réflexion, on a entendu le ministre polonais des Affaires étrangères nous dire il y a quelques jours que finalement il respecterait les traités. Très bien. Donc on va leur donner le temps de réfléchir et après il faut qu'ils nous disent si oui ou non ils veulent respecter les principes européens, et notamment un principe qui est très important, qui est celui de la liberté de la presse, vous y êtes attaché, et de la liberté des juges.
Mais alors,
et de l'indépendance des juges.
Quelque chose qu'on ne comprend pas. Comment pouvez-vous défendre les traités quand il s'agit de la Pologne et nous chanter les louanges de la souveraineté quand il s'agit de la France? Pourquoi les Polonais réclament finalement un primat du droit national sur le droit communautaire?
Écoutez, ne faites pas semblant de découvrir des choses qui sont connues en première année de droit. La Constitution française
prime... Monsieur le professeur, pardonnez-moi de ne pas comprendre.
Non, je ne suis pas professeur, je dis simplement, c'est vous qui me posez des questions en me disant que je chante, je ne sais pas, je ne chante pas, je suis sérieux. La Constitution française, elle prime, la preuve c'est qu'il n'y a pas de traité européen qui s'est appliqué en France, il est contraire à la Constitution. Je répète, il n'y a pas de traité européen qui s'applique en France, il est contraire à la Constitution. Dans ce cas-là, s'il y a une contradiction, soit on change la Constitution, ce qui nous est arrivé plusieurs fois, soit on n'applique pas le traité. Donc il y a un primat à la Constitution française. Après, et donc ce que je propose en matière d'immigration, je ne chante rien, excusez-moi de le dire avec véhémence, j'essaie de trouver des solutions à un problème grave qui est que la politique d'immigration chez nous ne fonctionne pas et qu'elle ne fonctionne pas non plus en Europe.
Monsieur Barnier, alors comment vous pouvez dire cela sur la France et défendre la souveraineté de la France sur le sujet de l'immigration et dire en face aux Polonais que vous n'acceptez pas ce qui est dit sur la justice?
Je vais répéter une troisième fois que ce que veulent faire les Polonais, c'est de ne pas reconnaître des traités qu'ils ont acceptés. Et avec des principes fondamentaux, c'est plus un problème d'ailleurs politique qu'un problème juridique en Pologne. Mais c'est la question de l'indépendance de la justice. Mm-hmm. Ils veulent mettre au pas leurs juges. C'est contraire à nos valeurs, à nos principes. Soit ils continuent et donc ils peuvent se mettre en dehors de l'Union européenne, soit ils reviennent dans le respect des valeurs qui sont les nôtres. Ce que je propose en ce qui me concerne, se fait dans le respect des traités. Sauf que, Sonia Mabrouk, les traités européens, ils disent pratiquement rien sur l'immigration et la Constitution française, pas davantage. Donc dans cette incertitude-là, on voit s'accumuler une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
Donc vous avez profité des failles en réalité.
Non, je veux combler les failles, excusez-moi. Je veux apporter des réponses aux problèmes. C'est ça le rôle d'un président de la République, c'est de trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Et c'est ce que j'essaye de faire objectivement et sérieusement après m'être entouré du conseil d'experts du Conseil constitutionnel français, du Conseil d'État dont je suis membre, et d'experts européens.
Barnier, pourquoi quelqu'un qui a passé quasiment sa vie dans les couloirs de la Commission européenne, qui a acté aussi finalement de ce qui est en train de se passer, et des mots MAUX que vous nous décrivez, aujourd'hui se dit bah tiens, finalement, je vais faire exactement l'inverse.
Vous cherchez depuis le début de vos questions à me mettre en contradiction avec moi-même, vous n'y arriverez pas.
Mais pas du tout.
Moi je suis gaulliste et européen. Et quand quelque chose ne fonctionne pas dans mon pays. Non, non, mais il n'y a pas de mauvaise intention, mais c'est l'occasion de donner un peu de véhémence à cette discussion, ce qui est toujours bien. Quand je constate que quelque chose ne va pas, je le dis et je le change. Prenons un exemple européen, qui s'explique d'ailleurs en particulier, notamment le Brexit. Le Royaume-Uni a été violemment touché, Nicolas Barré pourrait le dire mieux que moi, par la crise financière de 2007-2008. Comme nous d'ailleurs, des millions d'emplois ont été touchés, parce qu'on avait désarmé l'Europe. Pendant 30 ans, des gouvernements de gauche et de droite et Bruxelles ont engagé une politique de déréglementation, ce que j'appelle l'ultralibéralisme. Ce n'est pas ma ligne, moi je suis libéral. Je suis libéral, mais je ne crois pas à l'ultralibéralisme. On a besoin, comme le disait Adam Smith, de gouvernance, de morale et d'éthique. Et on a détricoté, on a désarmé l'Europe. La crise financière que Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, a gérée avec beaucoup de volontarisme, avec Mme Merkel, nous a heurté de plein fouet. Mais nous étions désarmés. Et j'ai reconstruit, puisque vous me posez la question, qu'est-ce que vous avez fait?
Vous étiez à l'intérieur de la machine. C'est ça qu'on comprend pas.
Je suis en train de vous expliquer ce que j'ai fait en 2010.
Oui.
J'étais commissaire européen au marché intérieur et j'ai reconstruit la régulation financière à travers 41 lois de régulation européenne. Je me dis, pourquoi ne l'avez pas fait tout ? Je l'ai fait lorsque j'étais en responsabilité. C'est ce que je ferai comme chef de l'État.
Alors, je me permets de revenir sur la question du rapport à l'Europe des différents pays. Oui. Les Britanniques disaient, globalement, on veut se gouverner par nous-mêmes. On ne veut pas être gouverné par Bruxelles, on veut se gouverner par nous-mêmes. En Europe de l'Est, on entend souvent des peuples dire « ce n'est pas l'Europe à définir pour nous nos valeurs sociétales. Ce n'est pas l'Europe à dire pour nous quels sont nos choix de société. » En France, on entend quelquefois « ce n'est pas à l'Europe à décider de notre politique d'immigration. Ce n'est pas à l'Europe de fixer les paramètres de la gestion des frontières ou qu'est-ce qu'on peut faire ou non avec l'immigration. » Ces demandes-là, vous les entendez ? Est-ce que c'est à l'Europe de dire les préférences sociétales des uns, la politique d'immigration des autres ?
Bien sûr que je les entends. Mais tout va bien et il n'y a pas de problème pour avoir sa part d'autonomie nationale et de souveraineté nationale lorsqu'il s'agit de respecter les valeurs qui fondent le projet européen. Donc, vous ne me ferez pas dire qu'il faut quitter pour la France le projet européen.
Pourquoi serions-nous le gardien de ces valeurs ? Je comprends. Et vous avez raison. Non, sur la justice, vous avez raison.
Vous me posez des questions. Là, je trouve très grave votre question.
Non,
excusez-moi.
Certains peuples pensent.
Les valeurs sur lesquelles nous sommes fondés, ce sont celles d'ailleurs qui sont très proches de celles que j'ai citées tout à l'heure et qui sont celles de notre République, c'est-à-dire la liberté de conscience, la laïcité, le respect de l'égalité homme-femme, la liberté et l'indépendance des juges. Enfin, si vous me dites qu'il faut remettre en cause ça, je ne suis plus d'accord.
Je vous pose la question, parce que certains peuples le souhaitent.
Ils n'ont pas leur place. Ils n'ont pas leur place dans le projet européen.
Ah, voilà.
La question. Non, le projet européen est un projet qui est fondé sur des valeurs. Et permettez-moi d'élargir un peu la question, parce que il faut quand même arrêter de tourner en rond et de regarder un peu le monde tel qu'il est. Et le rôle du chef de l'État,
c'est d'expliquer. Nous essayons de le faire modestement.
Non, mais moi aussi, j'essaie de le faire avec beaucoup d'humilité et de passion aussi, ce qui n'est pas d'ailleurs contradictoire. Mais quand vous regardez le monde tel qu'il est, vous devez constater qu'il y a des défis et des menaces, y compris sur notre propre société, qu'on ne peut plus affronter tout seul. Est-ce qu'on peut affronter le changement climatique tout seul ? Est-ce qu'on peut affronter le terrorisme ? Laissez-moi terminer ma réponse, le point que je veux faire. Est-ce qu'on peut affronter le terrorisme tout seul ? Est-ce qu'on peut faire face à la grande pauvreté ? Nous sommes aujourd'hui d'ailleurs jour de la journée mondiale contre la pauvreté. La pauvreté en Afrique qui va provoquer une immigration massive si nous n'y prenons garde. Est-ce qu'on peut affronter la finance mondiale ?
Non,
excusez-moi, je parle de choses sérieuses. Est-ce qu'on peut affronter la finance mondiale qui nous entoure, ces spéculateurs, ces fonds de pension, ces gens qu'on ne connaît pas, qui n'aiment pas beaucoup d'ailleurs la lumière, tout seul ? Je ne le pense pas. Je pense qu'il faut être pour cela ensemble, avec les autres Européens, pour être à la table. Mesdames et messieurs, il y a une table autour de laquelle va s'organiser l'ordre ou le désordre du monde dans les 30 ans qui viennent. Et je parle de cela parce que ça concerne nos enfants et nos petits-enfants. À cette table sont assis maintenant définitivement les Américains depuis longtemps, les Chinois, bientôt la première puissance du monde, l'Inde, la Russie, le Brésil. Nous allons être éliminés de cette table. D'ici 30 ou 40 ans, il n'y aura peut-être plus que l'Allemagne et encore. Est-ce qu'on veut être à cette table ou pas ? Moi, je le dis dans toutes les réunions que je fais, je suis patriote, je suis gaulliste, je suis européen parce que je veux que mon pays reste à cette table. Je n'ai pas envie que la France soit spectatrice des décisions prises par les autres. Je ne me suis pas engagé en politique, permettez-moi de vous le rappeler, pour que la France soit sous-traitante des Chinois et sous influence des Américains.
Bien, c'est là où vous voulez vous emmener, M. Barnier. Voilà. C'est bien parfois de sortir un petit peu, pour préciser les choses.
Je n'ai pas de leçon, ni de patriotisme à recevoir de Mme Le Pen ou de M. Zemmour, ni de leçon d'engagement européen de recevoir des amis de M. Macron.
Eh bien, justement, nous allons en parler, parce que la question que l'on se pose, c'est quel droit de vous incarner qui ne soit pas soluble dans le macronisme. Quel projet vous opposez à Éric Zemmour ? Et puis nous parlerons de vos camarades en vue du congrès LR. A tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et merci à vous d'être avec nous en direct à la fois sur Europe 1 et CNews. On poursuit bien sûr cette émission avec notre invité Michel Barnier et Nicolas Barré pour une question sur le Brexit.
Michel Barnier, les pêcheurs français ont le sentiment de payer les pots cassés du Brexit. Vous le savez, les Anglais délivrent des licences de pêche au compte-gouttes. Vous les avez sacrifiés dans la négociation avec Londres ?
Ah, certainement pas. Nous avons trouvé avec les Britanniques, au moment de l'accord qu'ils ont signé, après l'avoir ardemment négocié, un accord équilibré qui n'est pas idéal. Je rappelle que nos pêcheurs européens, dont les pêcheurs français, d'ailleurs j'ai vu l'autre jour à Boulogne-sur-Mer, nous pêchons pour 650 millions d'euros en valeur dans les eaux britanniques chaque année. Eux, ils ne pêchent que 150 millions d'euros. Et ils pouvaient nous exclure. S'il n'y avait pas eu d'accord, nous étions éjectés, tous les pêcheurs européens, belges, néerlandais, danois, irlandais et français, des eaux britanniques.
Bah là, ils ont obtenu, de l'être, comme
on a
de toute
obtenu
façon.
de préserver 75% de nos capacités de pêche et pour 5 ans d'avoir une stabilité de l'accès aux eaux. Le problème, c'est est-ce que les Britanniques veulent ou ne veulent pas respecter leur signature ?
Vous avez la réponse.
J'entends. Et oui, j'ai l'impression qu'ils se comportent comme des flibustiers actuellement. Et donc je suis aux côtés des pêcheurs français et européens qui n'ont plus l'accès auquel le traité leur donne droit si on l'applique de bonne foi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de la part des Britanniques. Donc je pense que les Britanniques prennent de graves responsabilités en créant une crise où ils pourraient l'éviter s'ils voulaient bien mettre, si je puis dire, en perspective la relation entre eux et l'Union européenne, entre eux et la France, plutôt que de gérer les choses au jour le jour.
Il faut prendre des mesures de rétorsion à leur égard, comme le souhaite le gouvernement français.
Je pense que la France doit clairement dire, via Bruxelles et avec Bruxelles, il y a une situation de moment de vérité, ou bien les Britanniques respectent cet accord, et il y a aussi la question de l'Irlande qui est très sérieuse, ou bien ils ne le respectent pas. S'ils ne le respectent pas, il y a dans le traité des moyens de rétorsion, des fermetures croisées d'accords, de rétablissement de droits de douane. Enfin, il y a un certain nombre d'outils dans le traité qu'il faudra utiliser.
Quelle est votre, je peux dire, préférence pour ces mesures de rétorsion? Parce que le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, a dit que d'ici 8 jours, si le Royaume-Uni n'accordait pas ses licences, eh bien, il pourrait y avoir des coupures d'électricité à Jersey, ou en tous les cas, agir sur ce point-là, qui est un point extrêmement sensible.
Le point de crispation qui justifie ma solidarité avec les pêcheurs concerne les îles anglo-normandes, Jersey, Guernesey et la Manche. Ces îles, elles ont besoin de la France, de l'Europe, du marché unique, et donc il faut que chacun prenne ses responsabilités. Je ne suis pas au gouvernement pour l'instant.
Si vous étiez aux responsabilités.
Je pense qu'il y a dans le traité l'accès au marché unique, l'accès au marché électrique. J'ai mis dans le traité, par exemple, une mesure de réciprocité sur la période de transition, mais c'est peut-être un peu compliqué, mais pendant 5 ans et demi, nous avons un accès aux eaux qui est stabilisé. J'ai mis un accès pour les Britanniques, pendant 5 ans et demi, la même période, à notre marché interconnecté d'électricité. Donc les choses sont parallèles. Il y a des mesures. Mais encore une fois, j'espère qu'on aura suffisamment d'intelligence et de respect pour que les Britanniques fassent honneur à leur signature et à leur réputation. La même chose se pose de manière encore plus grave en Irlande, où là, ce n'est pas une question de marchandises, de douane, c'est une question qui touche à la paix, aux hommes et aux femmes qui veulent vivre en paix.
Vous l'avez négocié, et certains disent justement pour ce protocole nord-irlandais qu'il est tout simplement inapplicable.
Il a été négocié pied à pied par Mme May, avec qui j'ai passé 3 ans, si je puis dire, et ensuite M. Johnson, qui a signé cet accord après l'avoir négocié. Alors aujourd'hui, vous avez des ministres britanniques, M. Frost et d'autres, qui disent ce protocole, nous le savions que nous n'allions pas le respecter. Enfin, je trouve que c'est très grave.
Vous avez le sentiment d'avoir été roulé, en quelque sorte, pardonnez-moi le terme.
Le Parlement britannique a ratifié cet accord. Donc je trouve que c'est très grave et que ça met en cause la confiance dont nous avons besoin entre alliés. Ce n'est pas le seul cas. Enfin, je pense à l'affaire australienne aussi, où nous avons des doutes actuellement.
Mais une fois qu'on a dit cela, alors comment on peut être dans une table, pour reprendre votre image, ou à une table tout à l'heure, et ne pas se faire respecter ainsi?
Mais on doit se faire respecter par des traités qui sont signés. Enfin, c'est comme ça que se passe la diplomatie. Comment ça que se passent les rapports internationaux? Moi, j'ai passé 5 ans à bâtir l'Union des 27 pays de l'Union européenne, l'unité de cette action, et nous y sommes parvenus, pour négocier la défense de nos intérêts, y compris ceux des pêcheurs ou des agriculteurs, avec les Britanniques. Eux-mêmes ont fait le mieux et on a signé cet accord avec eux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'ils ne veulent plus respecter leur accord, d'abord il y aura des sanctions, des répressions, peut-être que l'accord global va tomber avec les Britanniques. Oui, c'est possible qu'il tombe. On a des mesures de révision de cet accord. Si jamais ils ne respectent rien du tout, l'accord tombera. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On va rétablir des tarifs douaniers, des quotas sur tous les échanges. Je rappelle que les Britanniques exportent 47% de leurs produits vers l'Europe. Nous n'exportons que 8%. Mais on a évité ça, en bonne intelligence, dans un accord de libre-échange. Et donc j'espère que les Britanniques seront suffisamment conscients pour ne pas sacrifier. C'est une phrase de Pierre Mendès France.
Oui, mais en attendant, c'est l'espoir qui doit nous faire
l'avenir au présent. Et donc, ce qui est en cause là, c'est la qualité des relations entre la France et le Royaume-Uni dans les années qui viennent, et je le dis comme quelqu'un qui veut être président de la République, et la qualité des relations entre le Royaume-Uni et l'Europe. Maintenant, s'agissant du Brexit, là, vous me parlez de l'application du traité. Au-delà du traité et à côté du traité, il y a des leçons à tirer du Brexit, je veux le rappeler, parce que je veux être lucide. Le Brexit, il s'est produit parce qu'il y a un sentiment populaire qui s'est exprimé dans beaucoup de régions contre Bruxelles. Le ras-le-bol, il a été attisé par les nationalistes et les gens d'extrême droite comme M. Farage. Mais il existe ce sentiment, on n'est pas assez protégé, il n'y a pas assez d'industrie, on a laissé partir notre industrie, il n'y a plus d'avenir pour les jeunes, il n'y a plus assez de services publics, il y a une immigration mal contrôlée. Je rappelle d'ailleurs que ce qui est en cause chez les Britanniques, c'est de supprimer la liberté de circulation en Europe. Moi, je veux préserver cette liberté de circulation en Europe, je ne parle que d'immigration venant de pays tiers, l'Afrique ou d'autres.
Puisque donc, vous parlez des leçons, quelles erreurs reconnaissez-vous? Parce que là, pardonnez-nous, depuis tout à l'heure, quand même, il y a des manquements. Parfois, oui. Une partie de cet accord n'est pas applicable. Est-ce que vous estimez avoir fait des erreurs? Est-ce que vous estimez qu'il y a une part de naïveté de notre part et de la vôtre?
Dans la négociation du traité du Brexit, des deux traités du Brexit, on a fait notre travail. Et maintenant, il faut respecter la signature. C'est aussi simple que ça.
Donc, de votre côté, tout a été bien fait, bien fait.
Je pense qu'on l'a fait correctement, avec l'attention portée à tous les États membres. Chacun a vu ses intérêts pris en compte. Et on a, pour cela, préservé l'unité des 27. Maintenant, si les Britanniques ne respectent pas leur signature ou veulent mettre en cause l'accord qu'ils ont signé et négocié, et c'est eux, c'est pas contre eux ou sans eux qu'on a négocié, c'est avec Boris Johnson que j'ai négocié.
Si je peux me permettre, dernière question sur Boris Johnson et le Brexit. Vous dites que le sentiment anti-Europe était alimenté par les nationalistes et l'extrême droite, mais ceux qui ont fait campagne pour le Brexit en tant que tel, on peut penser, mais notamment M. Johnson, vous ne le classez pas l'extrême droite.
Non, être souverainiste en Europe sans être extrême droite. Je ne classe pas M. Johnson à l'extrême droite. J'observe simplement qu'il a voulu que son pays sorte de l'Union. Il y est parvenu. Il a choisi d'être solitaire dans le grand large. Très bien. Je souhaite le meilleur au Royaume-Uni.
J'entends. Mais sortir de l'Europe, ce n'est pas l'extrême droite.
Ça, c'est souvent l'extrême droite. En tout cas, on a entendu chez nous. Je serais d'ailleurs content de savoir ce que pense réellement et M. Zemmour et Mme Le Pen de la présence de la France dans l'Union européenne. Ça serait intéressant de leur poser la question, qu'ils répondent clairement à cette question. En tout cas, c'est souvent l'extrême droite, aux Pays-Bas, en Italie, en France, au Royaume-Uni, qui a sollicité ou qui a demandé la sortie de l'Union européenne. Et donc, la question sera posée aux élections présidentielles. Est-ce qu'on veut que notre pays garde sa place, qui doit être une des toutes premières dans l'Union, ou choisit la solitude? Mais je vous répète que si on est seul dans le monde qui vient, et qu'il faut regarder lucidement, sur certains sujets, sur beaucoup de sujets, on est foutu. Voilà ce que je pense. On devient sous-traitant et sous influence des Chinois et des Américains. Je ne me suis pas engagé en politique derrière le général de Gaulle, très modestement, pour que mon pays soit sous-traitant des Américains et
alors,
des Chinois.
Alors, avant d'être candidat à la présidentielle, vous êtes candidat au Congrès des Républicains. Vous êtes désormais présenté, Michel Barnier, par certains comme le favori en vue de ce Congrès. Pourtant, dans les sondages en vue de la présidentielle, vous accusez un sérieux retard sur les autres candidats, notamment de droite. Vous n'incarnez pas le vote utile en vue de 2022. Est-ce que c'est un handicap sérieux?
Ah, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites.
Vous êtes le troisième homme.
Oui, bien sûr. Mais d'abord, dans cette famille politique qui a l'histoire très longue que je viens de rappeler, dans cette famille que je n'ai jamais quittée, je veux rappeler que ce ne sont pas les sondages qui font le président de la République. Jamais dans l'histoire des 30 dernières années, les sondages réalisés 5 ou 6 mois avant n'ont donné le résultat final.
Il vous aurait placé en tête, m'auriez dit l'inverse ce dimanche.
Non, je vous aurais dit avec beaucoup de prudence, mm-hmm. faites attention aux sondages, mm-hmm. comme d'ailleurs aux rumeurs ou à l'idée que je serais le favori, je fais très attention. Ce sont les militants. Les militants qui sont là depuis très longtemps, pour certains, beaucoup qui nous rejoignent et qui sont les bienvenus depuis quelques semaines pour participer au vote.
C'est d'ailleurs, quand même, j'indique à tous ceux qui... Nous avons quand même une photographie à l'instant T d'un sondage qui vous met... Je comprends que vous puissiez le contester,
non,
ne pas l'apprécier
pas
à 8%.
Je
donc la question du vote utile se pose.
Excusez-moi, je veux qu'on respecte les militants. Mais ce ne sont pas les sondages qui vont choisir notre candidat. Les militants, les adhérents des Républicains ont choisi que ce sera eux. Le 1er et le 2 décembre, le 3 ou le 4...
Mais que répondez-vous à un militant qui vous regarde et qui se dit « Monsieur Barnier est placé à 8%, Xavier Bertrand est au-dessus et en plus en capacité peut-être d'être au second tour face à Emmanuel Macron ?»
Mais moi, je ne vais pas parler des autres. Je vous dis que je me présente tel que je suis, quelqu'un qui est dans cette famille depuis toujours, qui présente ses convictions et ses idées et son projet, et je fais confiance aux militants. Ce sont eux qui choisiront le candidat, ce ne sont pas les sondages, et je pense qu'il faut les respecter. J'ai fait du respect d'ailleurs, respecter les Français, respecter la France, et faire respecter la France, le maître mot de ma campagne et de mon action à l'Élysée si je suis élu.
Michel Barnier, vous êtes candidat à la primaire de la droite. Une question toute simple, qu'est-ce que la droite pour vous aujourd'hui?
Eh bien, la droite, c'est cette grande famille, issue pour moi du gaullisme, qui ressemble à la France et qui gagne quand elle ressemble à la France.
C'est pas très précis.
Avec toutes ses sensibilités. Mais si vous me coupez avant,
pardonnez-moi,
que j'ai commencé à dire trois mots, on va pas y arriver, hein, si je puis me permettre.
À la détailler.
En tout cas, c'est une droite qui est fondée sur des valeurs, que j'ai rappelées tout à l'heure, et qui veut porter la France, là, elle doit être, elle doit rester, c'est-à-dire au premier rang. Cette famille est libérale, Elle veut aussi que le libéralisme s'accompagne de gouvernance et de justice. C'est pour ça que je suis très attaché à ses convictions et à ses idées de participation, d'intéressement des travailleurs, de justice sociale. Et fait de la France son maître mot et sa valeur principale, notre bien commun. Voilà ce qu'est pour moi la droite aujourd'hui. La droite républicaine qui respecte ses valeurs.
Pourquoi il y a une droite qui n'est pas républicaine ?
Oui, il y a une extrême droite qui...
Alors pourquoi elle n'est pas interdite dans notre pays si elle n'est pas républicaine ?
Je vous dis qu'il y a une droite qui ne respecte pas les mêmes valeurs que moi, et cette droite-là, je n'ai rien à voir avec elle. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau depuis le début de la Ve République.
Eh bien, nous allons parler de cette droite-là qui n'a rien à voir avec vos valeurs. Ça nous vous permettra, avec du temps, M. Barnier, de préciser quelle est votre droite, et une droite qui ne soit pas aussi soluble dans le macronisme. N'êtes-vous pas Macron compatible ? Vous nous direz en quoi vous ne l'êtes pas dans quelques instants. À tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et notre invité Michel Barnier, quelle droite incarnez-vous ? Vous avez commencé à y répondre. Mathieu Bock-Côté poursuit avec sa question.
Alors j'aimerais vous relancer sur la droite que vous incarnez. Vous nous dites qu'il y a une droite acceptable, une autre qui n'est pas républicaine, qui ne l'est pas. On se souvient notamment que Laurent Wauquiez, lorsqu'il dirigeait les Républicains, avait accueilli, dans le cadre d'ateliers de réflexion, Éric Zemmour, qui avait invité Éric Zemmour chez les Républicains. Est-ce que Zemmour fait partie pour vous de cette droite républicaine avec laquelle vous avez des liens, malgré des désaccords ?
Ma réponse est non. Il était à l'époque commentateur, essayiste, polémiste, invité à donner un point de vue. Nous accueillons dans notre famille des tas de gens dont nous ne partageons pas forcément les convictions pour nous éclairer. C'était l'objet de cette invitation de Laurent Wauquiez. Mais Zemmour n'est pas sur notre ligne. D'ailleurs, ça se saurait. J'ai entendu dire l'autre jour qu'il était le candidat du RPR. Ben, moi, j'ai adhéré au RPR depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, parti créé par Jacques Chirac. Je n'ai jamais vu M. Zemmour. Vous imaginez Jacques Chirac en train de boire une Corona avec Zemmour ?
Et pourquoi
mais
pas ?
Imaginez, cela dit, Laurent Wauquiez boire une Corona avec Zemmour.
Je vous parle du RPR et de Jacques Chirac.
Je vous parle de vos soutiens.
Oui. Je vous dis qu'aujourd'hui, les choses sont claires. Nous n'avons pas les mêmes conceptions. Je ne vais pas passer trop de temps à me déterminer par rapport à quelqu'un.
Mais est-ce que vos militants et sympathisants, les Républicains, pensent la même chose parce que vous les croisez et certains vous disent Éric Zemmour peut aussi faire partie de cette filiation de la droite RPR, voire gaulliste.
Je ne crois pas, je viens de vous le dire, et ma réponse est celle que je viens de vous répéter. Est-ce que vous imaginez Jacques Chirac en train de boire une Corona avec M. Zemmour ? Sûrement pas. M. Zemmour, il a une lecture ethnicisante, si je puis dire, de la société. Mmh. Il est un peu comme Greta Thunberg ou Mme Rousseau, toujours en train d'exploiter les peurs et les angoisses des gens. Les militants que je rencontre, et encore dans le sud de la France il y a quelques jours, ils regardent les problèmes que M. Zemmour ou d'autres peuvent regarder ou observer avec inquiétude. Les problèmes que nous avons, l'autorité de l'État qui n'est plus respectée, l'immigration qui n'est plus contrôlée, l'identité
Sauf
de la France.
Sauf que vous étiez aux responsabilités. Oui. Et ce que dit Éric Zemmour, et je vous laisse répondre M. Barnier, c'est que pendant 40 ans, vous les avez regardés et que vous ne y avez pas vous, apporté les réponses. Voilà pourquoi Éric Zemmour profite de ce vide.
Oui, les réponses n'ont pas été suffisantes ou à la hauteur quelquefois. Il y a eu des erreurs, je l'ai dit au propos de l'Europe, je peux bien le dire à propos des différents gouvernements d'une continuité de plusieurs années. Ce n'est pas parce que je suis candidat que je vais dire que tout est formidable dans ce qui a été fait. Si je suis candidat pour remplacer le président sortant, c'est parce que je pense qu'il faut changer. Mais moi, je suis candidat pour la première fois, après avoir observé mon pays.
Mais vous avez un long parcours.
Oui, j'ai un long parcours et partout où je suis... je suis élu, partout où j'étais élu, partout où j'étais en responsabilité, j'ai essayé, Sonia Mabrouk, de faire plutôt que de parler. Et j'ai cette réputation, en Savoie, où j'ai été élu pendant 17 ans, dans les différents postes de gouvernement sous l'autorité de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, où j'ai eu l'honneur d'être membre du gouvernement de la République française, où à Bruxelles, j'ai essayé de faire plutôt que de parler.
Xavier Bertrand, Valérie Pécresse disent la même chose.
Très bien, c'est leur choix, c'est pour ça qu'il y a plusieurs candidats qui sont des gens de talent et qu'il faudra que je réunisse si les militants me font confiance.
Alors eux, ils pensent que c'est derrière eux.
Michel Barnier, au fond, est-ce qu'aujourd'hui, votre parti, les Républicains, ne risque pas l'effacement, tout simplement, en étant attaqué d'un côté par Éric Zemmour, et puis sur son flanc centre-droit, disons, par Édouard Philippe et Emmanuel Macron.
Il y a en effet un risque. Et un risque qui est en même temps paradoxal, parce que notre famille politique est celle dont le projet, tel que j'ai essayé de le décrire, et je le décrirai dans les mois qui viennent, correspond à ce que souhaitent les Français en termes d'autorité de l'État, de maîtrise de l'immigration, de relance du travail et du mérite plutôt que de l'assistanat, de l'influence française dans le monde. Nous, notre projet correspond à ce qu'attendent les Français. Nous sommes le parti qui a le plus de militants, et ils ont été très patients, et je les remercie. Nous sommes le parti qui a le plus d'élus locaux, municipales, régionales, départementales, qui ont mené de bons combats, qui continuent à bien gérer les collectivités. Nous avons beaucoup de talents. Vous parliez de Xavier Bertrand, oui, qui nous a rejoint,
et Valérie Pécresse,
mais aussi d'autres candidats.
Qui vous a rejoint,
d'autres candidats, Éric Ciotti.
Vous parlez de leur.
Oui, le fait qu'ils ont repris leur adhésion au parti.
Comment vous voyez ce
retour? C'est une bonne nouvelle. Je ne vais pas trop parler de ça, mais je parle aussi d'Éric Ciotti, de Philippe Juvin. Je parle de Laurent Wauquiez, qui compte beaucoup, qui comptera beaucoup. Je parle de Bruno Retailleau. Il y a beaucoup de talents et beaucoup d'autres femmes aussi qui peuvent constituer l'équipe de France. Le paradoxe, pour répondre à votre question, Nicolas Barré, c'est que tous ces essais marqués n'ont pas été transformés. Et que, en effet, je pense que si nous ne sommes pas présents au deuxième tour, et moi je pense que je serai présent au deuxième tour, nous avons ce risque.
Il y a d'abord le congrès des Républicains. J'insiste sur ma question quand même, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse de retour au sein du parti, qu'est-ce que ça signifie pour vous?
Mais c'est normal. C'est tout simplement normal. Voilà des élus qui nous ont quittés, parfois avec des mots très durs, contre les Républicains.
Vous les avez eus aussi, parfois, même sans partir.
Oui, mais moi, je suis resté. J'ai toujours eu la liberté de parole. Je me souviens de mes débats avec Philippe Seguin, pour lequel j'avais beaucoup de respect. J'ai toujours eu le sentiment d'être respecté, et j'ai respecté les autres.
Et vous êtes adhérent LR chaque année.
Mais je n'ai jamais quitté cette famille politique depuis que j'y ai adhéré quand j'avais 15 ans. Vous m'avez jamais entendu dire que je quittais LR ou que je quittais les Républicains.
Non, mais je vous ai entendu parfois critiquer une ligne trop droitière, voire conservatrice.
Mais j'ai toujours. Mais dans une famille politique comme la nôtre, qui est une grande famille, permettez-moi de vous dire que De Gaulle faisait très attention à préserver les différentes sensibilités. Et notre parti gagne quand il ressemble à la France. Et quand il ressemble à une petite partie de la France, il perd. Donc je voudrais qu'il ressemble à nouveau à la France, et c'est le cas aujourd'hui. Vous me dites. C'est normal que ceux qui veulent le soutien de cette famille politique, le soutien de ces militants, qui veulent porter le projet, soient adhérents du parti.
Donc ils ont eu tort de partir.
Permettez-moi de vous relancer sur le sujet du jour néanmoins, c'est-à-dire, vous avez évoqué Éric Ciotti, qui fait partie de votre famille politique. Oui. Éric Ciotti dit, deuxième tour, Macron-Zemmour, je vote Zemmour. Est-ce qu'Éric Ciotti fait partie de la droite républicaine?
Éric Ciotti se met dans la situation où il ne serait pas présent au deuxième tour. Moi, je me mets dans la situation où
partie de la droite républicaine en disant
je
ça.
Je vais être présent au deuxième tour si les militants me font confiance à la fin de ce mois, au début du mois de décembre, et je porterai les couleurs de notre
parti. C'est pas notre question. Parce que
j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens de votre parti qui ne font pas partie de la droite républicaine selon votre définition. Il y a beaucoup de gens chez les Républicains qui aiment.
Excusez-moi. Les valeurs de notre parti sont inscrites dans une charte qui est celle du parti politique. Tous ceux qui sont là adhèrent à ces valeurs. Et vous me posez la question à moi, donc je vous réponds. Interrogez Éric Ciotti, vous fera la réponse.
Je vous ai demandé s'il faisait partie de votre famille politique, vu ce qu'il a dit sur le deuxième tour.
Éric Ciotti fait partie de notre famille politique.
En attendant, à 6 mois de la présidentielle, Michel Barnier, Emmanuel Macron dispose toujours d'un socle solide en termes de popularité. Il gagne même 2 points, si l'on en croit, mais soyons prudents, le dernier baromètre IFOP et JDD.
Mais vous-même, vous êtes prudente.
Comment? Mais je l'ai toujours
sondages.
Été.
Oui. Donc,
mais je suis humble.
Vous appuyez pas trop sur les sondages, vous savez. Ce sont les électeurs qui comptent.
Qu'ils soient
les citoyens qui comptent.
Malgré tout, vous reconnaissez une résistance et une résilience au président de la République?
Oui, parce que pour l'instant, il n'y a pas une offre très claire. Nous n'avons pas encore choisi notre candidat. J'espère que je serai ce candidat. La gauche, dans une situation encore beaucoup plus difficile. Les Verts viennent tout juste de s'en sortir. À propos des Verts, d'ailleurs, j'entendais sur votre antenne un ancien ministre de M. Macron me dire « Michel Barnier ne parle pas d'écologie ». Moi, je vais parler d'écologie. Je ne vais pas laisser ce sujet ouvert, surtout à ceux qui sont là en ce moment. Mais l'écologie humaniste et concrète, que j'ai toujours pratiquée quand j'étais ministre de l'Environnement…
Il y a une écologie qui ne soit pas humaniste ?
Oui, il y a une écologie qui est doctrinaire, qui est punitive, qui ne fait pas attention aux gens et qui, au nom d'idéologie, on pourrait parler du wokisme et d'autres, veut contraindre. Et moi, je préfère le contrat plutôt que la contrainte. Par exemple, une différence fondamentale, c'est la relance du nucléaire, que M. Macron, vous alliez m'interroger sur le président sortant, M. Macron a eu le nucléaire honteux pendant 4 ans.
Il est temps,
nous sommes à quelques mois de la nouvelle élection d'un nouveau président. Et on a perdu 4 années pour relancer les 6 réacteurs dont nous avons besoin pour préserver notre indépendance électrique. 72% de l'énergie électrique est fournie par le nucléaire. C'est une raison pour laquelle l'électricité est moins chère chez nous qu'en Allemagne. Et voilà le temps qu'on perd.
Michel Barnier,
je trouve que ce quinquennat était trop le temps d'occasion manquée. Voilà,
et justement, nous allons terminer sur ce quinquennat, puisqu'en vous écoutant depuis une heure, et ceux qui vous regardent se posent la question, en quoi vous n'êtes pas Macron compatible finalement? En quoi vous ne pourriez pas être le Premier ministre d'Emmanuel Macron s'il faisait
excusez-moi, je vois bien l'intérêt un peu anecdotique de votre question, mais ce n'est pas le sujet.
Vous pensez, il y a eu quand même des hommes de droite qui l'ont rejoint, des femmes.
Oui, ben, vous parliez d'Édouard Philippe.
Dans
la famille Juppé, je préfère le père, si je puis dire. Ils ont pris leurs responsabilités. Et là, j'entendais l'ancien Premier ministre, M. Macron, dire il y a quelques jours au Havre deux choses qui m'ont surpris. Il faut une nouvelle offre politique. C'est ce qu'il a dit.
Oui.
Vous l'avez entendu. Et en même temps, il dit il faut réélire le président actuel. Il dit dans la même phrase il faut remettre de l'ordre dans les finances, on pourrait en parler, et il faut remettre de l'ordre dans la rue. Ça veut dire qu'il y a du désordre. Et il dit il faut garder le même président. Moi, je pense que s'il faut remettre de l'ordre parce qu'il y a du désordre et s'il faut une nouvelle offre politique, il faut changer de président. Voilà ce que je pense.
Merci Michel Barnier d'avoir été notre invité ce dimanche. C'était votre grand rendez-vous Europe 1, CNews et Les Échos. À bientôt. Je remercie également Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barré. Sur CNews, c'est l'heure du débrief de tout ce que vous avez dit. Et sur Europe 1, c'est la suite de nos programmes. Bel après-midi à vous tous.